Bonjour à tous. Je voudrais partager avec vous une conversation que j'ai eue il y a très peu de jours avec le ténor espagnol Juan Sancho, grand spécialiste de l'opéra baroque et de Handel en particulier. Il vient d'enregistrer un disque pour le label Gemelli Factory, un disque intitulé Love Songs. Ce sont des tonos humanos, c'est-à-dire des chansons profanes du siècle d'or espagnol, composé par José Marín. Il a enregistré cela avec le guitariste Miguel Rincón. José Marín, nous en avons parlé, bien sûr, puisque c'est un compositeur qui gagne à être connu, mais qui ne l'est pas encore beaucoup. Et nous avons parlé aussi de chant en général, de chant baroque, et du chant en voix de tête aussi, en voix de falsetto. À propos de quoi, Juan Sancho a quelques idées originales à nous faire partager. Voilà cette conversation à bâton rompu, selon la formule consacrée, qui sera bien sûr illustrée de quelques plages musicales. Juan Sancho, on parle de ce José Marín comme un des précurseurs du flamenco, autrement dit la terre andalouse. Est-ce que c'est vrai?
Je pense que c'est un peu trop dire ça, précurseur du flamenco. Je pense qu'effectivement, il y a pas mal de choses dans le flamenco qui ont l'origine dans la musique baroque et toutes les danses populaires, mais aussi de la cour. Mais dans le flamenco, il y a un côté très important islamique et même des Landes. Donc, il y a beaucoup d'éléments dans le flamenco. Parmi eux, c'est vrai que la musique baroque, les danses ont une partie importante.
Oui, on entend toujours des danses en arrière-plan de ces compositions, de ces tonos humanos. Tonos humanos, on pourrait traduire ça par quoi? Chanson profane, quelque chose comme
exactement.
Ça?
Exactement. Tonos humanos par contraposition à les tonos divinos, ou a lo divino. En fait, ça, on devrait dire tonos a lo humano, tonos a lo divino, ça veut dire tonos à la façon humaine, tonos à la façon divine, non? Donc divine, c'est voilà tous les villancicos que sont les chansons religieuses qui n'ont pas une fonction liturgique, mais voilà sont des morceaux spirituels de dévotion et les humanos sont voilà des mélodies de cour, mélodies de profanes.
Alors ce sont des mélodies qui ont été enregistrées par exemple Montserrat Figueras il y a quelques années avec Rolf Hillovan dans une version très différente de la vôtre, parce qu'elle le faisait très dans l'intimité, dans la proximité, presque chuchotée, tandis que vous, votre voix de ténor, vous la laissez sortir.
En fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, je me suis laissé beaucoup inspirer par Montserrat. Parce que j'ai même étudié avec elle, pas beaucoup de temps, mais je la connaissais. Elle a été ma professeure à Barcelone pendant un petit moment et elle avait un goût extrême. Elle était exquise pour tout faire en fait. Mais elle avait, je pense, un amour très particulier pour la musique espagnole. Et c'est vrai que sa façon pour faire ce répertoire, c'est très différent à la mienne. C'est vrai. Mais on a des personnalités très différentes, des parcours, des backgrounds très différents, non? Sa version reste incroyable. Incroyable.
Est-ce qu'il y a une tradition d'interprétation de ces musiques-là? Est-ce qu'elles sont très chantées en Espagne, par exemple?
Non, pas vraiment. Il y a pas mal d'exemples, c'est vrai. Et maintenant, avec la discographie, c'est assez accessible, non? On trouve pas mal d'enregistrements, mais ce n'est pas une tradition comme les madrigaux italiens, par exemple. Ça, c'est très vivant encore, mais le répertoire baroque espagnol, ça recommence. Mais en tout cas, ce n'est pas une tradition ininterrompue. C'est vraiment, on a repris ça il y a quelques années.
Redécouvert, oui, redécouvert ça. Est-ce que c'est de la musique populaire ou de la musique savante, ou les deux?
Je dirais que c'est un peu les deux. Parce que si vous voyez la poésie, ce n'est jamais des sonnets. Et les sonnets, les versets des 11 syllabes sont les versets de la poésie plus haute. Là, jamais il y a, au moins dans les tonos humanos que j'ai enregistrés, il n'y a aucun sonnet. Dans les madrigaux de Monteverdi, il y a sonnet de Petrarca. Donc là, c'est vraiment une poésie beaucoup plus haute que celle dans les tonos humanos. Mais en tout cas, ce n'est pas de la musique populaire non plus. Donc, comme vous dites, très bien, c'est un mélange entre les deux mondes, en fait.
Mais c'est que le climat musical d'Espagne, à cette époque-là, à l'âge baroque, était largement différent de ce qu'il était en Italie, par exemple. Moins littéraire, une grande influence du répertoire religieux, j'imagine, alors que le répertoire profane, le théâtre, restait un théâtre parlé, alors évidemment avec Calderón et les autres.
Exactement. C'est vrai que, par rapport à la musique, l'Espagne était toujours très en retard. Et encore, si vous pensez que quand Monteverdi il a fait la première de son Orfeo, 2 ans avant, Tomás Luis de Victoria avait composé le requiem le plus important de toute l'hispanité, de tous les temps. C'est la culmination de la polyphonie religieuse espagnole et je dirais universelle. Il y a Palestrina, il y a Tomás Luis de Victoria. Et si vous pensez, c'est 2 ans avant que l'Orfeo. Donc c'est vrai, le langage musical espagnol était encore très, très archaïque. Mais musicalement, parce qu'après, dans la poésie, on a Cervantes, on a Lope de Vega, on a Calderón, on a Quevedo, Góngora, on a vraiment les plus grands écrivains de l'histoire universelle, avec Shakespeare et Molière. Molière, c'est un peu après, mais voilà.
Et on a Velázquez et on a la peinture, la plus grande peinture.
Bien sûr, Velázquez qui aussi n'était pas un peintre archaïssant, tout au contraire. Donc, Marín est un peu dans une nouvelle vague en ce sens-là. Les Tonos Humanos qu'il avait composés autour de 1640, j'imagine, 1650 peut-être. Velázquez, il était le peintre principal de la cour de Felipe le IV à Madrid. Et c'est vrai que dans le monde musical, l'Espagne, il y a beaucoup de questions à se poser, je pense. Mais on commence à découvrir quand même des très belles choses, des choses qui commencent à être interprétées par les musiciens espagnols maintenant.
Je vous propose qu'on entende un de ces Tonos Humanos par vous, Juan Sancho. Lequel choisiriez-vous ?
Écoutez, j'aime beaucoup comment commence le CD, en fait, Que bien canta un ruiseñor, parce qu'on a voulu de le commencer avec d'une façon un peu surprenante, épatante, je dirais.
Ni sabe qué pesar ni qué placer. sabe que pesar ni que placer, ni sabe que pesar ni que placer, ni sabe que pesar, ni sabe que pesar ni que
toutes les mélodies de José Marín viennent de ce livre, de cette collection qu'on a appelé les Cancioneros de Marín, parce qu'il y a voilà 51 chansons de Marín et tout est là.
C'est un homme qui a une vie qui rappellerait un petit peu celle de Caravage, finalement, un côté mauvais garçon. Hein.
Absolument, absolument. C'est une période vraiment très intéressante pour l'Espagne. Parce que si vous pensez, cette merveilleuse peinture, la réunion entre Louis XIV et Philippe le IV d'Espagne, le roi de France et le roi d'Espagne, dans l'île du Faisan, la frontière entre l'Espagne et la France, on voit le roi espagnol complètement noir. Et c'est tout noir, gris, et on voit le roi soleil, c'est tout doré, il y a des couleurs. Donc, on dirait qu'il y a des tempéraments de très différents, non? Donc, la cour de Madrid, la vie de l'Espagne, dans ses sens très religieux, très austère, mais à la fois, il avait la comédie, il avait le théâtre, il avait la vie de la rue. Il avait des contrastes énormes. Il avait des contrastes énormes. Donc, l'officialité, c'était pas comme à Versailles, où le roi, il avait ses favorites, c'était des domaines publics, tout le monde le savait. À Madrid, pas officiellement. Après, les gens savaient tout, bien sûr. Mais en principe, le roi, jamais. Et les amants du roi finissaient normalement au couvent, comme sœurs, quoi. Donc, il avait pas mal de scandales du roi, qui quand même, il voulait montrer une image très catholique, très austère, très sobre, mais qui ne se correspondait avec la réalité. Et ça, on l'a voulu le voir, l'entendre dans la musique de José Marín, parce que voilà, il était prêtre lui-même. Mais il s'est ordonné après avoir tué au moins 2 personnes à Madrid, il s'est échappé à Rome, où il était ordonné. Après, il a voyagé aux Indes, à Sud-Amérique. Et après, il a rentré en Espagne. Il a toujours encore travaillé dans son couvent avec des moines, chantant, pas en tant que prêtre, mais voilà, en chantant avec la chapelle de ce couvent. Mais encore après, il avait tué un platier dans son magasin avec un copain à lui, qui était un dramaturge, Juan Bautista Diamante, aussi prêtre. Ce n'est pas l'image du prêtre moderne. Voilà, c'était des hommes d'épée, des hommes d'aventuriers, donc rien à voir avec l'image qu'on peut avoir maintenant.
Mais il était donc musicien de la cour, musicien du roi, guitariste, harpiste, comme beaucoup de compositeurs espagnols d'ailleurs.
Il était chanteur du roi, de la chapelle royale de Madrid. Et voilà, il jouait la guitare aussi. Et on peut imaginer que dans un petit moment, il chantait aussi de façon privée pour le roi. Ça, on ne le sait pas certainement, mais le roi, à cette époque-là, il n'avait pas une chapelle privée. C'était, ça veut dire, il n'avait pas un groupe de musique profane privée. Ça, c'est plus tard. À l'époque, c'était, tous les musiciens étaient de la chapelle royale. Donc, c'était de la musique religieuse. Mais on sait que le roi, il connaissait la musique, surtout son père, Philippe le IIIe, il jouait la gamba. Voilà, on sait qu'il avait de la musique pas religieuse à la cour. Et on peut imaginer que José Marín avait en fait joué et chanté à la fois une de ses chansons au roi.
Que dulcemente suena entre estos verdes sauces animada ti orba un ruiseñor envidia de las aves envidia de las aves sus quiebros son suspiros y endechos sus compases que ya en su triste suerte solo alivio de la pena cabe, de la pena cabe. mares plumas de estrellas coronarse porque hallaron propicia de su ambición la vanidad del aire, la vanidad del aire. Su fortuna, pero siente el ultraje que armado de rigores el torpe alivio a sus blasones hace, a sus blasones hace. Triste, oh ruiseñor suave, pues ve que los laureles solo se hicieron para cobardes, para los cobardes.
Un autre des Tonos Humanos de José Marín par Juan Sancho. C'est pas la première fois que vous vous attachez à ce répertoire, disons à moitié populaire, à moitié savant. Vous avez enregistré il y a quelques années un disque consacré à Juan Hidalgo, qui était pratiquement contemporain.
Oui.
Ce sont les mêmes dates que José Martí, à quelque chose près.
Presque pareil. Je suis avec Fami Alcaí et son ensemble Academia del Piacere. Et même avant, j'avais enregistré il y a dans la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle, il y a un manuscrit qui s'appelle le manuscrit Guerra, qu'il y a une collection énorme de Tonos Humanos de plusieurs compositeurs. Et ça, je l'avais enregistré aussi avec Manuel Vilas, qui est harpiste. Et voilà, si j'ai une certaine expérience avec le répertoire.
C'est un devoir, me semble-t-il, pour les chanteurs espagnols de le faire connaître.
Absolument. Parce qu'en plus, on chante toujours en italien et en allemand, en français, pas très souvent, mais moi, en tant qu'espagnol, mais quand même. Et la proximité avec la langue maternelle, ça rend tout très différent. Il a une spontanéité que même si on chante tout le temps en italien, c'est différent. Ça, donc
c'est quoi faire d'accent?
C'est la
compréhension. Naturel, simplement.
C'est la compréhension du texte, parce que moi, je parle italien, ce n'est pas un problème. Même l'allemand, je ne le parle pas parfaitement, mais je le comprends. Et surtout, tout ce que je chante, je le comprends 100%. Chaque mot, chaque déclination, datif, génitif, tout, je comprends ça. Mais ce n'est pas ma langue maternelle.
Ce qu'il y a derrière les mots, en
exactement,
somme.
Exactement. Parce que voilà, la langue de José Marín est la même que j'utilise à la maison. Et la même que j'utilise avec mes enfants, avec ma femme, avec mes parents. Donc, avec mes copains.
L'espagnol a peu changé?
Oui, par rapport à la prononciation, j'imagine, oui, mais dans ce sens-là, je n'étais pas historiciste de tout. Je voulais que ça restait très compréhensible pour le public en général.
Ben, ce sont des chansons.
Ce sont des chansons, oui, mais il y a pas mal de chanteurs, et c'est très légitime, qui font la prononciation historique. Et même en France maintenant, quand vous faites le baroque, vous ne prononcez pas comme le français moderne. Vous essayez de rouler les airs et tout ça, parce qu'on sait que c'était la prononciation de l'époque. Moi, je n'ai pas voulu rentrer dans ces mondes-là. J'ai voulu que ça restait très contemporain par rapport à la prononciation pour le rendre compréhensible, facile.
Mais votre répertoire, ce que vous chantez le plus, c'est quand même l'opéra et l'opéra baroque.
Oui.
Et notamment Handel,
oui,
par exemple, qui fait partie des piliers de votre répertoire.
Absolument.
Et c'est très différent du point de vue du chant proprement dit, du placement de la voix.
Et on chante maintenant Handel dans des théâtres qui ont très peu à voir avec le théâtre original. Donc ça reste toujours une question sans résoudre et que je pense qu'on ne va jamais résoudre. Parce que si on parle du répertoire de l'Ottocento, du 19e siècle, là, on a des traités de chants très précis, de Dupré, les fameux Dupré, de Garcia. Ils parlent d'une façon très spécifique, très, très concrète, comment faire. Ils parlent de mécanismes du falsetto, de la voix de tête, de la voix de poitrine. Ils disent exactement où il faut changer les mécanismes. Il y a beaucoup de détails. Et en plus, le théâtre, beaucoup ont évolué énormément, mais on a des théâtres historiques de l'époque de Rossini, encore. Mm-hmm. On connaît la taille des théâtres. Après, le théâtre de Handel, ça a très peu à voir avec l'actualité. Et la façon de chanter...
Donc c'est une histoire de volume aussi?
Évidemment, une histoire de volume. Mm-hmm. L'idée de le soutien, que c'est comme les AVC du chant moderne, de le chant opératique, le soutien de la voix, le soutien de la colonne d'air, c'est un concept moderne. Même pas belcantiste. Dans le belcante, on ne parle pas de le soutien de la voix. Ça, c'est après. Donc, Rossini ne pouvait pas penser avec ce principe de le soutien de la voix, le diaphragme et tout ça, parce que quand on lit les traités des chants de l'époque de Garcia, de Dupré, qui sont très spécifiques, comme je disais, ils parlent de la technique, jamais ils parlent du soutien, jamais ils parlent de chanter dans la masque. Chanter dans la masque, c'est un des piliers du chant.
Oui, pour projeter.
Oui, absolument. Donc, c'est assez raisonnable de penser que dans le temps de Rossini, les voix étaient beaucoup plus légères.
Mais Garcia, vous parliez de Manuel Garcia, qui est le père de la Malibran, etc.
Exactement.
Vient du XVIIIe siècle. Il a chanté Mozart. Donc il vient d'une technique ancienne, mais dans ses traités, il parle déjà en termes du XIXe siècle, dites-vous.
Il vient d'une technique ancienne, c'est pas parce que Rossini, il avait réservé le début du Barbier de Séville. Donc quand même, il était un chanteur très
de Grazia.
De ténor de Grazia, si, mais est-ce qu'ils étaient tous à l'époque ténor de Grazia? Il n'avait pas le ténor dramatique, ça n'existait pas à l'époque.
C'est Dupré qui a tout changé, autrement
dit. Mais même Dupré, c'est une question qu'il faut repenser beaucoup à ça. Dupré, dans son traité, et après, qu'est-ce qu'il faisait Dupré? On ne peut pas le savoir, mais si on lit le traité de Dupré, qui est de 1846, si je ne me trompe pas, les, disons, contrutes de poitrine, d'Odipetto, il dit carrément qu'il faut le faire falsetto. Lui, il dit dans son traité qu'il faut le faire falsetto. Garcia aussi. Mais acceptons pour un moment que Dupré a tout changé et qu'il le faisait. Et pourquoi lui, à la fin de sa carrière, quand il a écrit le traité, il disait des mensonges? C'est pas raisonnable ça. On dirait qu'il a écrit exactement ce qu'il faisait. Donc peut-être il a chanté avec une résonance plus poitriné, une résonance plus grande, et ce n'était pas un falsetto comme ceux des contraténors. Des ténors que peut-être à l'époque de Rossini avaient, un vrai falsetto. Peut-être c'était un falsetto plus rond, plus coloré, plus ombre à l'époque de Dupré. Mais quand même, Dupré dit dans son traité que c'était du falsetto. Donc je me base, je viens de faire un récital avec Marie-Lys, votre Marie-Lys de Lausanne. À Séville, on a fait Donizetti, on a fait des extraits de l'Elisir d'Amour et de Lucia di Lammermoor. Et moi, je tenais beaucoup à chanter dans les duos avec Lucia, les contre mi bémol aigu. Parce que c'était l'écriture de Donizetti pour Dupré.
Donc, forcément en falsetto, là.
Forcément en falsetto. Cette vision de la Lucia pour un ténor dramatique, après, chacun fait comme il veut, on est tous différents. Mais on peut être sûr que ce n'est pas historique. Après, il ne faut pas être historique, c'est un choix. Et l'art, ce n'est pas dogmatique, il y a des choix tout le temps. Mais on peut être certain que voilà, sont des notes à chanter en falsetto, pas de poitrine. Donc, pas pour un ténor hyper dramatique, en tout cas.
Mais il me semble qu'avoir trouvé un air de Leonardo Vinci, si je me trompe, où justement vous utilisez le falsetto.
Ah oui, mais ça, depuis quelques années, je l'explore beaucoup. Parce que c'est fondamental. Il faut, on sait, le théâtre de la mode de Benedetto Marcello, c'est incroyable comment il critique les ténors, particulièrement. Bon, il critique à tout le monde, à Vivaldi, à tous, non? Mais il dit, donc, vous savez que le théâtre de la mode s'écrit ironiquement, c'est tout renversé, non? Il se moque des artistes des contemporains à lui, mais en disant ce qu'il faut faire, évidemment, à son avis, c'était tout au contraire qu'il faudrait faire, vraiment. Donc il dit, si vous êtes un ténor, il faut que vous chantez, quand vous montez, vraiment comme le contraténeur, comme i castrati, il dit. Ça veut dire quoi? Que les ténors de l'époque chantaient avec falsetto, parce qu'ils n'étaient pas castrés, bien sûr. Donc, c'est assez évident, je trouve aussi, que pour le répertoire italien, au moins peut-être un d'elle à Londres, c'est une autre histoire, c'est peut-être un autre coup. Mais pour le répertoire italien de Naples, de Venise, de Rome, les ténors devaient chanter carrément avec le falsetto, les notes aiguës. Et je chantais...
À partir de quelle note, vous pensez?
Ben, écoutez, Garcia, si je ne me trompe pas, il parle au-dessus du sol. Il
faut très bas, enfin pas dans le haut, si je puis dire.
Et on voit, il y a un exemple, il fait des ornements d'une opéra italienne, je ne me rappelle plus, de Paisiello, un contemporain. Et il y a un moment qui fait Do si la sol fa mi re do, aigu, le contrute, et il dit carrément Do si la sol fausse fa mi re do, poitrine. Donc si ça, c'était la règle à l'époque de Garcia, même pareil avant, chanter avec un chant plus lourd, plus musclé, plus dramatique, c'est beaucoup plus tard. Si on entend les enregistrements de Lauri Volpi, qu'il avait chanté beaucoup dans le XXe siècle, bon, il était un chanteur du XXe siècle, on a pas mal d'enregistrements, il était le professeur de Franco Corelli, il chantait avec falsetto, beaucoup de fois. Et même Gigli, qui est considéré le plus grand des Pucciniens, quand il chante la Furtiva Lagrima, un quart de l'air est en falsetto. Et on parle des années 30, des années 40. Hein. Donc, même si vous entendez, il y a un enregistrement de Tokyo, si je ne me trompe pas, en direct, de Carlo Bergonzi, en chantant la Lucia de la Mermur. Quand il chante la dernière heure, Tu che a Dio spiegaste l'ali, il commence en falsetto. J'invite à toutes les personnes qui sont en train d'écouter, de nous écouter maintenant, d'aller sur YouTube et sentir, écouter Carlo Bergonzi en chantant Tu che a Dio, mais la version en direct. Il chante en falsetto les premières notes pour le faire piano. Donc,
vous nous avez donné trop envie, on va l'écouter tout de suite.
Très bien.
Oh, bella alma innamorata, bella alma innamorata.
Carlo Berganzi qu'on entendait là. On peut parler de Belcanto dans son cas.
Oh, bien sûr. Il est, à mon avis, un des vrais derniers ténors belcantistes. À mon avis, c'est lui, Michael Spiers, maintenant, et très peu. Et je le dis humblement, sans vouloir critiquer, parce que chacun fait... Et même moi, avant, j'avais pas la technique, l'approche au chant que j'ai maintenant, donc on évolue tous.
Ce mot bel canto, Juan Sancho, si je vous le demandais de le définir, qu'est-ce que vous mettez, vous, derrière le mot bel canto?
C'est le beau chant.
Oui, oui d'accord, bon, on est bien d'accord
oui,
là-dessus.
Mais... Oui, oui, mais il faut avoir toujours ça très présent, c'est le beau chant. Donc s'il y a un moment qui n'est pas beau, ça peut être vraiment, évidemment, un petit artifice, un petit moment très expressif, mais la base du chant, c'est la voix belle.
Alors c'est quoi, le placement, c'est le legato?
Il y a beaucoup de mécompris avec l'idée des legato. Moi, je ne parle jamais en temps de legato. Le principe basique du bel canto, pour moi, c'est « si canta come si parla ». On chante comme on parle.
Donc on s'appuie sur les mots, sur les consonnes.
On s'appuie dans la langue parlée. Il y a cet professeur de chant italien, Antonio Iubarra, qui est magnifique. Il y a pas mal de livres de l'école italienne du chant et tout ça. Et le principe qu'il parle, c'est toujours « si canta come si parla », on chante comme on parle. Il est très clair que tous ces a priori techniques, tout cet espace, la masque, le voile du palais, les côtes, c'est un artifice qui n'est pas historique. C'est vraiment la façon de chanter maintenant. Et c'est nécessaire peut-être pour chanter dans une salle de 4000 personnes. On est bien d'accord. Mais pour chanter dans une salle de 1000 personnes, ce n'est pas nécessaire. Surtout si c'est un orchestre qui a un diapason plus bas, un orchestre avec des instruments moins sonores que les instruments modernes, et un orchestre aussi moins riche par rapport au nombre de musiciens que maintenant. Et aussi, il y a un élément fondamental. Le chanteur d'opéra à l'opéra chantait dans le proscenium. Toujours à côté de l'orchestre. Comme on voit dans toutes les lithographies de l'époque, des castrats et tout ça, ils chantent à côté de l'orchestre, pas à 20 mètres du chef, pas à 15 mètres vers l'arrière. Donc les chanteurs chantaient dans l'espace acoustique de la salle. Ça change tout. Ça change tout. Maintenant, en plus, on a des microphones dans l'orchestre pour nous faire entendre à nous, avec des haut-parleurs, dans la scène, l'orchestre. Parce qu'on est tellement loin de l'orchestre qu'on n'arrive pas à l'entendre. Donc, le son de l'orchestre est doublement amplifié.
Donc, vous avez tendance à pousser.
À pousser. On a la tendance à pousser. Et en plus, on ne sent jamais le son, le vrai son de l'orchestre. On entend l'orchestre par le haut-parleur, de la scène.
Mais c'est courant cette histoire-là de micro et de haut-parleur?
Dans tous les théâtres du monde. Dans tous les théâtres du monde, maintenant, il y a des micros dans l'orchestre pour que nous, les chanteurs, sur scène, écoutons le son de l'orchestre. C'est ce qu'on appelle le retour. Voilà. La seule fois que moi, dans ma carrière, que c'est pas 50 ans de carrière, mais quand même 15 ans de carrière, j'ai pas chanté dans pas mal de théâtres. La seule fois où je chantais sans micro, pas moi. Les chanteurs, on n'est pas simplifiés. C'est l'orchestre. La seule fois que je chantais sans les micros de l'orchestre, pour pas entendre, parce qu'il n'était pas nécessaire, c'était cet été au festival de Drottningholm, en Suède.
Dans un tout petit théâtre baroque.
Tout petit théâtre de 500 personnes.
Et en bois.
Et en bois. Alors là, on n'a pas besoin de ça. Et là, on chantait avec le vrai son de l'orchestre. Et ça change tout.
Autrement dit, tout est artificiel. Alors, parce que vous êtes obligé de pousser la voix, donc d'artificialiser votre chant aussi.
Mais nous, tous les chanteurs... Tous les chanteurs, sauf si on fait un récital avec l'orchestre derrière nous. Si on a l'orchestre derrière nous, on n'a pas besoin de micro. Je veux dire
de retour.
On n'a pas besoin de retour parce qu'on entend l'orchestre. Si on fait un récital avec une orchestre baroque aussi, mais l'orchestre baroque quand ils sont dans la fosse, il y a des micros. Et si on fait un récital avec un pianiste, non. Mais si on fait de l'oratorio, non plus. Mais de quand on fait opéra dans son théâtre d'opéra en version signifiée, il y a des micros. Et je trouve que ça, c'est un scandale, parce que vraiment, effectivement, il faut qu'on chante encore plus. On est loin de l'orchestre, on est loin du public. Et en plus, on est forcé à chanter avec une voix poitrinée. Bon, pas moi. Moi, comme je suis dans le répertoire baroque, heureusement, personne ne vient me dire comment je dois chanter. Et en plus, j'ai une certaine trajectoire, donc si on m'aime, on m'appelle, sinon on ne m'appelle pas. Donc, je n'ai rien à prouver, je chante comme je chante, et heureusement, voilà, ça va. Mais tous les chanteurs qui font du répertoire postérieur, ils chantent avec une technique qui n'est pas historique. Après, c'est un choix et c'est magnifique, chacun fait ce qu'il veut. Mais il reste encore à découvrir le répertoire de 19e siècle avec une technique historique. Parce qu'il y a tellement de beauté dedans. Il y a tellement de nuances, tellement de subtilités, tellement de beautés, vraiment de beautés. N'oublions pas que c'est le bel canto. Ce n'est pas le chant puissant, ce n'est pas le chant guerrier, oui, dans des petits moments, oui, bien sûr, mais c'est du bel canto.
Il y a quelque chose qui s'est perdu en chemin. Je me souviens que Callas racontait toujours qu'elle a réappris, elle a approché du bel canto avec Elvira de Hidalgo, mm-hmm. avec Tulio Serafine, qui ont transmis une certaine tradition. Mm-hmm. Vous pensez que beaucoup de choses se sont perdues aussi? Parlons du côté des ténors, alors.
Mais Maria Callas, elle était la plus grande chanteuse, absolument, mais elle était une chanteuse complètement moderne, dans ce sens-là. Absolument moderne. Si on parle de Totti d'Almonte, c'est toute une autre histoire. Totti d'Almonte, c'était une chanteuse vraiment héritière, on dit, oui. du bel canto. Mais Maria Callas, c'est une chanteuse moderne. Absolument moderne, comme les grands chanteurs qui ont fait tous les enregistrements des années 50, 60, 70 ans, sauf Bergonzi, comme je disais, peut-être la première Renata Scotto quand il chantait Donizetti, il y a là un bel cantisme extraordinaire, exquis. Je m'ai permis de dire ça, voilà, ils sont les monuments de la musique lyrique du XXe siècle, mais quand même, ce n'est pas péjoratif, c'est simplement qu'il y a eu un changement de technique, un changement d'attitude. L'opéra est devenu beaucoup plus Hollywood, que, pas dans son mauvais sens, je dis dans le sens de l'hyperréalisme expressif, le dramatisme, ça n'a rien. Le 19e siècle est beaucoup plus rhétorique de ce qu'on pense, est beaucoup plus proche au baroque qu'au 20e siècle. Le 20e siècle, avec les deux guerres mondiales, avec la télévision, avec le cinéma, et le réalisme avec les avant-gardes, c'est toute une autre histoire. La façon de chanter a complètement changé. Donc, cette grâce, pour moi, il y a un autre concept qui est fondamental, c'est la grâce. C'est la grâce dans le chant. Donc, le chant doit rester toujours, avant le XXe siècle, noble, digne, si vous voulez, même aristocratique. Et on peut être hyper expressif en le faisant. Mais ça doit rester noble, toujours gracieux.
Juan Sancho, qu'est-ce qui vous a amené à être une sorte de spécialiste du chant baroque, de l'opéra baroque, alors que vous nous parlez beaucoup de l'opéra du 19e siècle là?
Parce qu'on a une vraie difficulté à imaginer comment était le chant du 18e siècle, et même encore plus du 17e. Je base beaucoup ma technique dans le 19e parce que c'est le plus loin qu'on peut y aller avec une certitude assez scientifique, si vous voulez. Parce que les traités, comme je disais, de Garcia et Dupré sont très précis. Après, les traités de chant du 18e sont plus musicales que techniques. Et c'est plus difficile à imaginer comment était le son des chanteurs là, non? Mais en tout cas, je pense que l'évolution naturelle de la voix a été toujours la faire plus lourde, plus grande, plus dramatique, plus pleine dans le sens du volume et de la projection. Et ça, on le voit parce que Monteverdi, quand il a fait l'Orfeo dans l'Accademia dell'Invacchi, c'était un espace très petit. Et si on pense les opéras qu'on fait maintenant au Met, qui a 4000 personnes, on voit que là, il y a... On voit ça aussi dans l'évolution des instruments. Un piano moderne n'a rien à voir avec un clavecin, ou même avec le premier pianoforte. Et donc, je pense que c'est assez probable que les voix se sont élargies avec le temps. Dans le baroque, les voix étaient encore plus petites, moins appuyées qu'à l'Ottocento.
Alors, qu'est-ce que vous essayez? Vous essayez d'alléger votre voix? Écoutez, vous êtes pris dans le mouvement, de toute façon.
Oui, absolument, absolument. Et en tout cas, moi, je chante le répertoire baroque avec plus d'amour que de conscience technique, je dois dire. Donc, parce que si on entend mes enregistrements, surtout les premières, il y a beaucoup de force, beaucoup de dramatisme là, et vous pourrez dire que c'est justement le contraire de ce que je suis en train de dire. Et c'est vrai. Et ce changement m'est arrivé assez récemment, il y a 2-3 années. Je ne cherche pas de chanter plus léger, j'essaye de chanter plus naturel. Le résultat, c'est une voix plus léger, des fois, mais c'est surtout une voix plus claire. L'autre jour, un chanteur me disait, je ne sais plus, c'est un beau collègue, me disait, c'est incroyable parce que les chanteurs anciens, ils sonnaient tous différents. Quoique maintenant, il y a une homogénéisation de l'impostation vocale, si vous voyez ce que je veux dire. Du moment où on soulève le voix du palais, qu'on pense à la masque, qu'on pense à l'expansion des côtes et qu'on pense au soutien diaphragmatique, il y a une standardisation de la voix. Si on chantait avant avec une technique plus naturelle, plus personnelle, et on pensait surtout à la clarté de la voix, à l'élégance du phrasé, tout ça, naturellement, la voix était plus différente dans chaque chanteur. C'est comme dans la voix parlée. La voix parlée sont très différentes. Vous reconnaissez quelqu'un avec la voix parlée. Avec la voix chantée, moderne, c'est aussi avec, comme les pianos. Ça n'a rien à voir un piano Erhard avec un piano Broadwood. Ce sont des sons très différents. Maintenant, Yamaha, Kawai, Steinway, il y a une homogénéisation du son. Donc, ça, je pense qu'on le voit aussi avec le chant. Qu'est-ce que j'essaye maintenant de faire? J'essaye de chanter le plus naturel. Et ça donne une perspective, une couleur différente. Quelqu'un va aimer. Déjà, on me l'a dit, on me critique que ça se blanchisse un peu des fois la voix, que je monte avec les falsettos. Et chaque fois qu'on me l'a dit, je dis, bon, je suis content qu'on l'entend au moins, que ça se voit, parce que c'est ce que je cherche.
C'est justement ce que je cherche.
Oui, exactement. Donc, voilà.
Merci beaucoup, Juan Sancho.
Avec plaisir.
Je vous propose qu'on se quitte avec une de ces mélodies de José Marín.
Oui, avec plaisir.
Merci beaucoup.
Merci
infiniment.
Ojos, pues me desdeñáis, ojos, ojos pues me desdeñáis. No me miréis, no, no, no me miréis, pues no quiero que logréis el ver cómo me matáis, el ver, el ver, el ver, el ver, el ver cómo me matáis, pues no quiero que logréis el ver cómo me matáis, el ver, el ver, el ver, el ver, el ver cómo me matáis. Cese el ceño y el rigor, ojos mirad, que es locura arriesgar vuestra hermosura por hacerme un disfavor. Si nos corrige el temor, si nos corrige el temor de la gala que os quitáis, no me miréis, no, no, no me miréis, pues no quiero que logréis el ver cómo me matáis, el ver, el ver, el ver, el ver, el ver cómo me matáis, pues no quiero que logréis el ver cómo me matáis, el ver, el ver, el ver, el ver, el ver cómo me matáis. Y si el mostraros severos es no más que por matarme, podéis la pena excusarme, pues moriré de no veros. Pero si no he de veros, pero si no he de veros, que de mí os compadezcáis. No me miréis, no, no, no me miréis, pues no quiero que logréis el ver cómo me matáis, el ver, el ver, el ver, el ver, el ver cómo me matáis, pues no quiero que logréis el ver cómo me matáis, el ver, el ver, el ver, el ver, el ver cómo me matáis. Ojos, pues me desdeñáis, ojos, ojos, pues me desdeñáis, ojos, pues me desdeñáis, ojos, ojos, pues me desdeñáis. No me miréis, no, no, no me miréis, pues no quiero que logréis el ver cómo me matáis, el ver, el ver, el ver, el ver, el ver cómo me matáis, pues no quiero que logréis el ver cómo me matáis, el ver, el ver, el ver, el ver, el ver cómo me
Au cours de cette conversation avec le ténor Juan Sancho, on a pu entendre trois des tonos humanos, des mélodies espagnoles de l'âge baroque qu'il a enregistrées, composition due à José Marín, qu'il a enregistré avec le guitariste Miguel Ancón. On a entendu également un extrait de Lucha de l'Amermour de Donizetti, enregistré live en 1967 par Carlo Bergonzi. Et puis l'avant-dernière plage qu'on a pu entendre, c'était un extrait de Jefté de Händel, extrait d'un disque paru chez Deutsche Harmonia Mundi, où Juan Sancho chante quelques airs de Händel, notamment celui-ci, sous la direction de Jan Thomas Adamus, avec la Capella Cracoviensis.